Il est 10h11. Est-ce que vous connaissez une personne qui a déjà été victime d'un partage d'images intimes d'elle sans son consentement? Malheureusement, c'est une problématique qui existe de plus en plus, qui touche particulièrement les jeunes en ce moment. Récemment, le ministre de la Justice provinciale a déposé un projet de loi afin de contrer le partage d'images intimes et d'améliorer la protection et le soutien des victimes. Et afin d'en discuter, on reçoit Maître Camille Godin. Camille Godin du Centre de justice de proximité pour nous expliquer les grandes lignes de ce nouveau projet de loi. Bonjour Camille.
Bonjour Annick.
D'abord, peux-tu nous expliquer brièvement là, les raisons qui ont mené au dépôt de ce projet de loi?
Oui, bien en fait, la problématique de partage d'images intimes sur les réseaux sociaux, là, c'est pas une problématique qui est nouvelle. D'ailleurs, le code criminel là, prévoit qu'il s'agit d'un crime qui peut être passible d'un emprisonnement qui va jusqu'à 5 ans. Parfois, le temps, par contre, que le dossier se règle, que l'enquête soit faite, etc., ça peut prendre jusqu'à 1 an, puis beaucoup de dommages peuvent être faits entre-temps à la victime. Une fois que l'image est partagée, c'est difficile de revenir en arrière, même de restreindre le nombre de personnes qui pourront voir l'image intime en question. D'ailleurs, selon Statistique Canada, il y a eu environ 1160 cas de partage d'images intimes sans consentement en 2023.
Et ça, c'est ceux-là qu'on connaît.
Effectivement.
On comprend que ça peut avoir de lourdes conséquences pour les victimes. Moi, j'aimerais vraiment pas ça. Puis quand on parle du partage d'images intimes, on parle de quoi plus précisément?
On parle de toute image, qu'elle soit modifiée ou non. Donc, des fois, on voit là, des gens qui font des montages photos, on parle de Photoshop, tout ça. On voit une personne qui est nue ou partiellement nue, ou encore où on voit la personne là, qui se livre à une activité sexuelle explicite, alors que la personne avait des attentes raisonnables de vie privée à ce moment-là, quand les images ont été prises. Les enregistrements, donc tout ce qui est vidéo ou même diffusion en direct, c'est considéré aussi comme des images. Le partage de ces images-là se fait soit en les publiant, les diffusant ou simplement en les rendant accessibles à d'autres personnes.
Qu'est-ce que le projet de loi propose comme protection pour les victimes?
Oui, bien, le projet de loi, ça prévoit une procédure qui est plus simple et rapide pour prévenir ou faire cesser le partage qui est non consensuel là, d'une image intime. Puis, ça prévoit aussi des sanctions qui peuvent être imposées là, si jamais l'ordonnance n'est pas respectée. Donc, il y a un formulaire qui va être disponible en ligne pour que les victimes d'un partage d'images intimes ou de menaces de partage d'images intimes puissent rapidement faire la demande là, pour que les images soient retirées ou détruites. On ne connaît pas encore les détails par rapport à la plateforme où va se trouver le formulaire ni qui traitera les demandes avant que les juges les reçoivent. Cependant, on sait qu'il y a un juge qui va pouvoir traiter la demande d'urgence là, dans les heures ou les jours qui suivent. Puis, les adolescents de 14 ans et plus vont pouvoir faire la demande eux-mêmes, seuls. Ça pourra aussi être demandé là, par une autre personne, comme un proche de la victime. Là.
Je me demande qu'est-ce que la victime va devoir mentionner dans le formulaire en question.
D'abord, le but, c'est que ça soit super simplifié. Donc, il faut déclarer qu'on est la personne représentée sur une image intime ou qu'on est autorisé à présenter la demande, notamment parce qu'on a le consentement d'une personne là, représentée sur une image intime. La personne devra aussi déclarer que l'image a été partagée sans son consentement, puis que la personne qui est sur l'image intime, dans le fond, ou qu'une personne menace de partager cette image-là sans son consentement. La personne va fournir également là, toutes les informations qui pourront aider à prévenir ou à faire cesser le partage de l'image.
Je comprends. Donc, c'est un processus relativement simplifié. Par contre, on voit parfois des situations où la personne qui partage l'image est inconnue de la victime, cachée derrière un pseudonyme ou un faux nom sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
L'ordonnance va quand même pouvoir être rendue. Ça va être communiqué à la personne qui partage l'image, même si elle se cache là, sous un pseudonyme.
Puis une fois que l'ordonnance de retirer ou détruire l'image ou la vidéo est rendue, il se passe quoi si la personne qui a partagé l'image refuse de la retirer, comme on le voit souvent, en fait?
Oui, bonne question, Annick. En effet, le projet de loi prévoit qu'il va y avoir des sanctions assez sévères pour les personnes qui ne respecteront pas les ordonnances rendues, dont des amendes qui peuvent aller de 500 à 5000 $ par jour et même une peine d'emprisonnement là, qui sera possible.
Est-ce que ce projet de loi-là, amène d'autres changements pour faciliter le processus pour les victimes?
Oui, ben le gouvernement en a profité du dépôt de ce projet de loi-là pour renforcer ce qu'on appelle l'ordonnance de protection aux civils. C'est un peu l'équivalent d'un 810 aux criminels. On n'entend pas beaucoup parler de la version civile, là, l'ordonnance de protection, en raison, entre autres, de sa complexité. Si le projet de loi est adopté, ça va être possible pour les victimes de simplement remplir un formulaire en ligne, encore une fois, dans lequel la victime doit démontrer là, qu'elle craint qu'on partage une image intime ou encore qu'elle craint pour sa sécurité. Puis, l'ordonnance de protection, comme le 810 aux criminels, ça impose des conditions à respecter pour la personne visée, par exemple, de ne pas approcher la victime, de ne pas entrer en contact avec elle. Puis, en ce moment, là, avant que les changements soient apportés, lorsque l'ordonnance de protection n'est pas respectée, bien, la victime doit faire une demande d'outrage au tribunal pour remédier à la situation. Et le projet de loi prévoit que maintenant, ça va être des sanctions du code criminel qui s'appliqueront à ceux qui ne respecteront pas une ordonnance de protection, là, donc des conséquences plus sévères.
Je comprends. Donc, le processus est plus simple, facilité. Les critères sont moins élevés pour demander cette ordonnance de protection. Est-ce que le projet de loi prévoit autre chose?
Oui, il prévoit également des changements à la loi là, plus générale. Par exemple, la possibilité pour les victimes de violences conjugales, familiales ou sexuelles de témoigner à distance, puis d'être accompagnées là, soit d'un chien de soutien ou d'une personne de confiance pendant le procès civil. On comprend que ça peut être difficile là, pour les victimes de ce type de violence de témoigner devant soit leur ex-conjoint qui a été violent ou leur agresseur. Le but, c'est de protéger le plus possible les victimes puis de faciliter le processus.
Là, je t'entends parler, tu parles de procès civil. C'est pas la même chose au criminel?
Bien, en effet, c'est deux processus complètement différents qui peuvent se faire en parallèle. C'est-à-dire qu'une victime pourrait porter plainte au criminel pour l'infraction de partager une image intime d'elle sans son consentement, puis en même temps poursuivre la même personne devant les tribunaux civils en dommages-intérêts, donc pour obtenir un dédommagement monétaire pour les dommages là, qu'elle a subis. Les protections ajoutées au projet de loi concernent le processus vraiment civil.
Maintenant, les victimes de violences conjugales ou sexuelles qui poursuivent une personne au civil pour avoir un dédommagement pourraient témoigner à distance. C'est ce que tu nous as expliqué un peu tantôt aussi, là.
Exactement, c'est ça. Le projet de loi modifierait le Code civil du Québec aussi pour que la réputation de la victime, son passé sexuel ou encore le fait de ne pas avoir mis fin à la relation avec l'auteur de la violence, ça ne soit pas admissible en preuve.
OK.
Donc, cette preuve serait maintenant plus admissible au civil, puis c'est déjà pas admissible au criminel. Également, lorsqu'une victime va entreprendre un recours civil là, en dommages et intérêts pour un acte qui est une infraction criminelle, le dépôt d'une copie du jugement de culpabilité de l'auteur de l'infraction au criminel, donc si la personne, là, auteur de l'infraction, a été déclarée coupable au criminel, ça va suffire à faire la preuve de la faute au civil, ce qui est actuellement pas le cas.
Donc, quand même, quelques changements à la loi qui faciliteraient la vie des victimes de partage d'images intimes et aussi des victimes de violences conjugales ou sexuelles ou civiles.
Exactement. Évidemment, toutes ces améliorations-là sont encore à l'étape du projet de loi. Il faut que le Parlement décide s'il adopte le projet, puis choisisse éventuellement là, une date d'entrée en vigueur pour que tous ces changements-là puissent s'appliquer.
On va souhaiter que ça s'applique à un moment donné le plus rapidement possible. Merci, Camille. C'était très intéressant. Si nos auditeurs ont des questions, comment ils peuvent communiquer avec le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Oui, merci, Annick. Si les auditeurs ont des questions, peu importe le domaine de droit, ils peuvent nous appeler au Centre de justice de proximité au 418-412-7722. Nos services sont toujours gratuits et confidentiels.
Bien, merci beaucoup. Il est 10h21. La prochaine chronique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean aura lieu dans 2 semaines, le mardi à 10h10, en alternance avec la chronique Pour l'amour du